étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose. Quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre que l'on guise.
Bonsoir, bienvenue sur Radio B dans Roman de Gare, l'émission consacrée à l'écriture et à la lecture. Un jeudi sur deux à 18h30, je vous propose de retrouver une autrice ou un auteur. Nous parlerons de ses livres et de sa passion pour l'écriture. Sans oublier nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates de séances de dédicaces dans la région proche. Pour cette 48e édition de Roman de Gare, j'ai le plaisir d'accueillir au téléphone l'auteur iconais Jacques Sausset dont le dernier roman Invisible est paru aux éditions Fleuve Noir le 25 septembre 2025. Jacques, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Vous préférez le mot auteur, romancier ou écrivain lorsqu'on vous présente?
Alors, j'ai l'habitude d'utiliser le mot romancier parce que je suis d'accord avec un certain nombre de mes camarades, c'est que les écrivains, pour moi, c'est surtout les gens qui sont morts, qui sont célèbres et qui sont morts. C'est pas mon cas. Et puis, un auteur, en fait, ça peut être un auteur de plein de choses. Ça peut être un auteur d'un crime, ça peut être l'auteur d'une belle sculpture, ça peut être plein de choses comme ça. Et donc, pour moi, le terme le plus précis, c'est romancier parce qu'en fait, on écrit des romans. Donc, c'est vraiment le plus proche, en fait, de ce que je pense faire, oui.
Bien, quel rapport aviez-vous avec la lecture et l'écriture lorsque vous étiez enfant puis adolescent?
J'écrivais quelques petits poèmes comme ça, par-ci par-là, pour mes petites copines, mais rien de bien sérieux. J'ai commencé l'écriture assez tard. Ma première nouvelle, j'avais 27 ans, c'était en 88, je crois. J'en ai écrit une quarantaine avant de commencer mon premier roman en 2008, Colère Noire, mais j'ai toujours été, en revanche, un lecteur absolument assidu depuis toujours. Et assidu principalement dans le roman noir, dans le thriller, dans le polar. J'ai commencé avec Gaston Leroux, avec Le mystère de la chambre jaune, et puis ensuite je me suis avalé tous les Agatha Christie, tous les Conan Doyle, tous les Frédéric Dard, tous les Boileau-Narcejac. Donc c'était vraiment des auteurs comme ça assez anciens finalement. Et puis par la suite j'ai attaqué les romans étrangers, donc qui étaient traduits. Puis petit à petit, au fur et à mesure que j'apprenais l'anglais, j'ai commencé à les lire dans leur propre langue. J'aime beaucoup aussi lire des romans anglais en version originale. Je me suis fait plein de séries noires, plein de choses comme ça. J'ai découvert beaucoup plus tard Denis Lehan. Et Denis Lehan a été pour moi l'élément fondateur de mon départ dans l'écriture avec sa série Kenzie Gennaro. C'était le moment M, en fait. C'est le moment où vraiment ça m'a déclenché l'écriture de Colère Noire.
Vous avez, je dirais, vous aviez deux passions dont le lien commun était la précision, votre métier de joaillier, et votre loisir, le tir à l'arc. Écrire des histoires, c'est aussi un travail de précision.
Oui, c'est exactement ça. Écrire une histoire, c'est une mécanique, en fait. C'est vraiment une mécanique. Alors, bon, moi, j'étais pas horloger, mais la joaillerie, il y a quand même énormément de mécanique, et on essaie que ça se voit le moins possible. C'est ça, la joaillerie. C'est surtout sur les bracelets, sur les colliers, sur les bagues, beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de mouvement, véritablement, dans une bague. Quoi qu'il peut y en avoir, il peut y avoir des bagues articulées. Mais principalement dans les colliers, il fallait vraiment cogiter très en amont le fonctionnement, le système de masquage des articulations, comment on allait faire le fermoir devant, derrière, dans quelle disposition ça serait. Et c'est vrai que le métier m'a certainement formaté en fait, dans un certain sens la réflexion. Et puis, aussi, le tir à l'arc, vous avez un but. Moi, j'ai eu un but pendant 10 ans, c'était de gagner les championnats de France, et c'est ce que j'ai fini par faire. Donc, c'est vrai que je me mets des challenges, en fait, des perspectives, et j'aime bien les accomplir. Donc, dans l'écriture, je me suis dit, voilà, j'allais écrire un certain nombre de romans, donc je ne saurais pas combien. Et j'en arrive à bientôt à 20, et j'espère continuer encore longtemps comme ça.
Vous avez pratiqué le tir à l'arc à un haut niveau, que ce soit en France ou à l'étranger. Alors, comment devient-on archer? Qui vous a mis le pied à l'étrier, et je dirais plutôt la flèche à l'arc?
Le tir à l'arc, j'ai toujours aimé ça. Étant gamin, je tire à l'arc avec mon père, avec mon frère. Et puis, les années passant, j'avais 25 ans, je crois. Souhaitais ça, 24-25 ans, je me suis inscrit dans un club. Et puis, j'ai commencé à apprendre avec un initiateur. Et puis, au bout d'une soirée, il m'a dit « Ouais, c'est pas mal, tu groupes pas mal tes flèches, mais tu devrais régler ton viseur parce que c'est un petit peu à droite. » Et je lui ai dit « Mais quel viseur ?» Et en fait, j'avais pas de viseur sur mon arc. Enfin, ils avaient essayé de me mettre un viseur, les initiateurs, parce que normalement, on met un viseur aux gens qui démarrent. Et ils m'en avaient pas mis. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dès le départ à tirer ce viseur. Et c'est ce qui a orienté par la suite ma carrière d'archer. Moi, c'était vraiment du tir sans viseur avec une technique bien particulière qui permet d'utiliser la pointe de flèche pour ça. Et donc, encore une fois, c'est quelque chose qui m'a permis de me focaliser sur une énergie, sur une décision et puis sur une trajectoire qui n'était pas forcément évidente au départ. Et en ça, ça rejoint un peu le thriller parce que au début, on peut avoir une idée de base, mais il faut quand même l'emmener dans des endroits que le lecteur n'attend pas forcément. Sinon, au risque de l'ennuyer. Donc, oui, c'est vraiment intéressant d'avoir un parcours, pas comme on l'attend, en fait, pas comme on écrit. Et en cela, le tir à l'arc a vraiment été formateur aussi.
Entre votre métier de joaillier à Paris et votre passion d'archer, comment l'écriture a réussi à se faire une place? Vos mains étaient souvent prises?
Oui, Et la tête aussi, bien, parce que c'est vrai que quand on fabrique des objets, ben, si on ne sert pas de sa tête, on fait vite des bêtises. Mais néanmoins, j'ai eu du temps pour écrire. Quand je partais en compétition, parce que j'allais, comme vous disiez tout à l'heure, j'allais souvent assez loin quand même au niveau des championnats de France. On faisait un espèce de championnat européen en Belgique, aux Pays-Bas, Allemagne, etc. Donc j'avais beaucoup de déplacements. J'ai commencé à cogiter des petites histoires comme ça, à les écrire sur des carnets. Et puis, bon an, mal an, ça finit par en faire une quarantaine. Et j'ai fait des concours de nouvelles parce que la famille vous dit, quand vous faites lire ce que vous avez fait, la famille vous dit, bah oui, c'est bien, c'est super ce que tu fais. Mais en fait, il ne faut pas les croire parce que la famille est toujours très bienveillante. Donc, l'idée, c'est de faire lire à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que là, vraiment, si t'es pas bon, on va vous le dire, quoi. Et donc, l'idée de faire des concours de nouvelles est arrivée comme ça. Et puis, j'en ai gagné deux. Je sais plus combien j'ai participé, mais un certain nombre. J'en ai gagné deux. Et le deuxième, c'était en 2007. C'était pour les 100 ans de la mort d'Alfred Jarry. Et là, j'avais gagné. En fait, j'avais un peu mystifié le jury, puisqu'ils m'ont pris pour un spécialiste d'Alfred Jarry, alors que je connaissais pas 3 semaines avant de faire le concours. J'avais jamais lu Le Roi Ubu. Donc, ça m'a donné l'idée d'essayer de mystifier les gens aussi sur un certain nombre de sujets dans mes histoires, notamment à amener les lecteurs à penser un certain nombre de choses alors qu'il se passe complètement le contraire.
Avant de vous lancer dans l'écriture à travers des nouvelles, il y avait déjà cette envie en vous de raconter des histoires.
Je ne suis pas sûr, je n'ai pas le souvenir d'avoir été comme ça séduit par des histoires que j'aurais pondues moi-même. En fait, c'est vraiment la nouvelle qui m'a amené à ça. Hein. C'est ça qui m'a déclenché véritablement, c'est l'élément fondateur.
Avec le travail et le tir à l'arc, vous aviez beaucoup de transport et donc de temps pour écrire. C'est forcément dans ces moments que vous écriviez ou que vous prépariez vos nouvelles puis vos romans.
En fait, les nouvelles au début, c'était dans le métro parce que bon, j'avais une douzaine de stations de métro, donc bah, ça prenait du temps. Mais quand même, quand j'ai commencé à faire du train en partant de Lyon pour aller travailler à Paris et retour dans la même journée, j'en suis arrivé à 4 heures de transport. Et là, j'avais quand même beaucoup plus de temps devant moi pour envisager quelque chose de plus conséquent. Et c'est là où j'ai commencé à écrire mon premier roman, donc en 2008. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Donc, c'est vrai que c'était conjointement à mon travail, mais ça me gênait pas parce que le temps passait dans le train, sinon je le perdais. Et là, c'était l'occasion rêvée d'avoir du temps que pour moi. En fait, j'étais absolument pas pris par les travaux domestiques, par le travail à faire dans le jardin. Là, c'était vraiment que l'écriture. Je pouvais pas faire autre chose. Faisant ça ou écrire, je pouvais pas jouer de la trompette à 5 heures du matin dans le train. Je me serais fait lyncher. Donc, l'écriture, c'était parfait. J'avais besoin de pas grand chose. Quand on écrit, on a besoin de pas grand chose, en fait. Un petit ordinateur, ou un cahier, ou ce qu'on veut, mais on a besoin juste d'avoir un peu de temps et puis de calme, en fait.
Vous avez commencé par des nouvelles à l'âge de 27 ans. Nous sommes alors en 1988. Vous avez attendu 14 ans et 19 ans pour que deux d'entre elles soient primées dans des concours. Sans ces deux récompenses, vous seriez toujours en train d'écrire des nouvelles.
C'est possible, je ne sais pas du tout. Peut-être, parce que je pense que c'est surtout la deuxième victoire sur ce concours. La première, je me suis dit, bon, bah, c'est un coup de chance, voilà, le jury a bien aimé, on n'était peut-être pas très nombreux. On s'invente plein de motifs comme ça, de pas y croire. Hein. Et puis, en plus, moi, j'ai pas du tout fait d'études littéraires. Hein. J'étais plutôt sciences nat, physique, chimie, moi, là, au lycée et en fac. Et du coup, j'y avais aucune structure d'apprentissage littéraire derrière moi. Et c'était vraiment sans aucune prétention que j'ai commencé ça, et puis bah, toujours d'ailleurs, je pense. Mais en fait, j'ai pris un plaisir beaucoup plus intense qu'avec les maths, physique, chimie. Et je pense que je me suis trompé en fait d'orientation scolaire, pas scolaire, mais universitaire. Et je pense que si j'avais fait des études de français ou de langue, je serais allé beaucoup plus loin. Voilà, donc c'est vrai que j'ai attendu longtemps, mais c'est surtout les compétitions de tir à l'arc qui m'ont donné du temps pour ça, parce que j'étais loin de chez moi et j'avais rien de spécial à faire. Bah, quand on est dans sa chambre et puis le lendemain, on doit faire parce que c'était des parcours en forêt, c'était assez sportif quand même. Le soir, on se reposait, on était dans notre chambre, on était seul et puis j'avais mon carnet. J'avais un livre et mon carnet, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
Ce déclic, celui de se lancer dans l'écriture d'un roman et d'avoir, avec deux nouvelles, remporté deux prix, il vous manquait cette confiance, cette reconnaissance pour aller plus loin?
Oui, je pense que d'après ce que je me souviens, hein, parce que là quand même, j'en suis bientôt à mon 20e roman, mais le premier, quand je l'ai écrit, j'ai vraiment eu l'impression de grimper l'Everest. En fait, je savais pas du tout si j'allais arriver en haut, si j'allais pas me prendre une avalanche sur la tête, si mon histoire allait pas se perdre dans des crevasses sans fond. J'étais un peu château branlant, quoi. C'est vrai que je savais pas du tout où j'allais. J'avais pas de plan, j'avais pas de. C'était vraiment au feeling. Et quand j'ai écrit ce bouquin, je me suis demandé, je me rappelle, quel était le Qu'est-ce qui justifiait en fait qu'un nouvel auteur comme ça arrive, enfin un nouveau romancier, mais pour le coup j'étais pas encore romancier à l'époque, j'étais juste auteur de quelques nouvelles, et qu'est-ce qui faisait que moi je pouvais prétendre écrire un roman je me suis dit c'est impossible, il n'arrivera jamais, quoi, c'est pas possible. Et puis bon an, mal an, en construisant cette histoire, je me suis rendu compte qu'elle allait beaucoup plus loin que mes nouvelles précédentes, et qu'il y avait vraiment de quoi tenir effectivement une histoire plus longue et de tenir un roman. Et j'ai continué, en fait, petit à petit j'ai pris confiance dans mes personnages, dans l'action que je menais, dans les scènes à l'étranger, dans la violence aussi, parce que la violence, elle est pas. Bon, je l'avais déjà travaillé dans mes nouvelles, mais là, c'est sur vraiment du long terme, c'est sur 450 ou 500 pages. Et c'est venu petit à petit, mais c'est venu. Et du coup, quand je l'ai terminé, j'étais quand même content de moi. Je me suis dit, bon, je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dedans, mais bon, j'ai fait lire à des amis, notamment une amie juge qui m'a aidé depuis le début d'ailleurs. Elle s'est tapée tous mes romans hein, pour me corriger toutes mes âneries judiciaires, puisque j'en écris toujours des âneries judiciaires. Heureusement qu'elle est là. Et donc, elle m'a aidé à ce que la structure judiciaire, en tout cas, tienne la route. Et moi, ce que j'ai principalement fait sur ce premier roman, c'était travailler la chair humaine, en fait. C'est de travailler l'âme des personnages, travailler leur présence, leur réalité. Parce que ça, si on n'y croit pas, un personnage, si les dialogues sont pas crédibles, ça fout tout le bouquin par terre, quoi. On peut éventuellement avoir un petit souci sur une intrigue, sur quelque chose de logique, mais sur un personnage, s'il n'est pas crédible, c'est mort, quoi. Donc ça a vraiment été le premier gros travail, c'est de travailler des personnages qui soient comme nous, qui aient vraiment de la chair humaine. C'est vraiment le terme que j'utilise souvent, c'est qu'ils aient de la chair humaine, qu'on puisse s'identifier, en fait, que le lecteur puisse comprendre qui est cette personne, pourquoi elle réagit comme ça et pourquoi elle réagit pas d'une autre manière, même si lui, il le ferait différemment. C'est vraiment vital, le personnage.
Vous avez écrit votre premier polar, L'Amante sauvage, en 2008, mais il n'est paru qu'en 2013 sous le nom de Colère Noire. Alors pourquoi avoir attendu 5 ans?
En fait, c'est pas moi qui ai attendu, c'est l'éditeur de l'époque. En 2008, j'ai écrit donc effectivement qui s'appelait L'Amante sauvage à l'époque, titre qui n'a pas plu à l'éditeur quand j'en ai trouvé un, mais à l'époque effectivement c'était ça. Et comme j'ai pas trouvé d'éditeur au départ la première année et que j'avais pris du plaisir à l'écrire, j'ai écrit le deuxième derrière qui s'appelle Deux sinistres mémoires. Quand j'ai envoyé Deux sinistres mémoires aux nouveaux auteurs et à un autre éditeur d'ailleurs dont je me rappelle plus le nom, c'était un petit éditeur je me souviens plus. Et donc en fait les nouveaux auteurs m'ont répondu en me disant qu'ils prenaient les deux romans. Donc, Colère Noire et Deux Sinistres Mémoires. Mais qu'en revanche, qu'ils allaient publier Deux Sinistres Mémoires d'abord. Bon, ok. À partir du moment où on vous dit qu'on va vous publier votre livre, mais un vrai éditeur, en fait, quelqu'un qui vous demande pas de l'argent pour publier votre bouquin, parce qu'il y en a quand même pas mal comme ça, des faux éditeurs, des marchands de papier, qui se servent hein, des auteurs un peu crédules, en fait, pour leur piquer de l'argent, parce qu'un éditeur, c'est pas comme ça que ça travaille. Un éditeur, ça croit en un auteur ou ça n'y croit pas. Et si ça y croit, ils lancent le travail sur le livre, mais ils savent qu'eux, ils seront payés sur la vente des bouquins. Et donc, ils vont faire tout ce qu'il faut pour que le livre se vende. Et c'était ça que je voulais pas un éditeur qui me fasse payer mon bouquin. Et donc, voilà, les nouveaux auteurs m'ont ouvert leurs portes. Je les en remercie toujours grandement parce qu'on est quand même un certain nombre d'auteurs à avoir commencé chez eux, comme Claire Favant, comme Valentin Musso, comme Agnès Ledic, comme Laurent Guillaume. Enfin, il y a plein, plein d'auteurs comme ça. Et donc, ils nous ont permis à quelques-uns d'accéder au monde de l'édition. Et ça, c'était extraordinaire. Et donc, à partir du moment où on vous dit, je vais publier ton bouquin, bah, même si c'est le deuxième, bah, on dit, bah oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, le deuxième est sorti. Ensuite, j'ai écrit le troisième et le quatrième la même année. Et donc, le troisième est sorti en 2012. Et j'ai fini par avoir gain de cause. Et le premier, Colère Noire, est sorti en 2013, effectivement.
Deux sinistres mémoires est le premier roman que vous avez fait paraître. Nous sommes en 2010 et on
Oui.
suit les enquêtes du capitaine Daniel Magne et de la jeune agente de police judiciaire Lisa Eslin. C'est le premier tome d'une série de 8 qui leur est consacrée. Vous avez grandi avec eux. À un moment, vous avez senti qu'il était temps pour eux, comme pour vous, de passer à d'autres personnages. Ils n'avaient plus besoin de vous et vous n'aviez plus besoin d'eux.
En fait, on m'a souvent posé la question au cours des premières années, combien est-ce que vous allez écrire de bouquins avec ces personnages-là? Parce que c'est vrai que quand mes lecteurs de l'époque ont su que c'était des personnages récurrents, et au bout du deuxième, déjà, on se dit, ah oui, et dès le troisième, on savait que bah, ça allait continuer. Et donc, moi, je me suis rendu compte que ces personnages-là, j'y tenais beaucoup, et j'avais envie de les emmener plus loin, mais j'avais envie d'écrire des hors-séries. Parce qu'en fait, quand vous avez des personnages récurrents, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas leur arriver. On ne peut pas les faire mourir, enfin, pas tous, on a forcément qui survivent. Et donc, mine de rien, ça requiert un petit peu de suspense du livre sur le thriller. Le hors-série, lui, il vous affranchit de ça puisque vous pouvez absolument tuer qui vous voulez. C'est pas un problème. De toute manière, c'est des personnages qu'on verra jamais. Donc, la densité de l'histoire peut être très différente. Les personnages récurrents, ceux-là, je les ai emmenés quand même je les ai mis dans des situations assez compliquées pour eux. Ils ont vécu des choses très très dures et au bout d'un moment, je me voyais pas leur en faire revivre encore et encore et encore jusqu'à l'indigestion. Je pensais qu'ils avaient vraiment morflé, enfin, Lisa principalement. Et c'est vrai qu'arrivé au 8e, j'ai eu la possibilité d'arrêter la série. Et je pense que c'était pas une mauvaise chose, même si au départ je pensais la continuer un peu plus, mais je pense que c'était pas une mauvaise chose. J'ai parlé tout à l'heure de Denis Lehane, c'est exactement ce qu'il a fait aussi avec Kenzie Gennaro, il est passé ensuite à d'autres romans. Et je pense que les personnages, ils ont gardé leur sel sur ces 8 romans et j'aurais eu peur qu'ils se désagrègent petit à petit, que j'en perde l'essentiel. Et là, ça m'a permis de créer Paul Kessler, de créer Alice. Combien de temps je vous emmènerai tous les deux? Ils ont déjà 2 romans chacun. Dans le prochain qui sort septembre l'année prochaine, en 2026, ils seront tous les deux dans la même histoire. Ils seront donc dans le prochain roman. Je suis parti sur une autre direction, c'est qu'ils ont une énorme différence d'âge, tous les deux. Paul est retraité, lui, c'est vraiment une toute jeune femme. Dès le départ, il n'y aura pas de relation de couple comme le précédent. Il n'y aura pas du tout de couple comme Paul et Elisa. Ça, j'en voulais pas du tout. Et je voulais deux personnages forts et deux personnages marqués par la vie. Et donc, c'est pour ça que ces deux premiers romans les ont mis en scène de manière assez forte pour qu'on puisse par la suite construire quelque chose avec eux et surtout les faire se friter un petit peu parce que c'est ça qui va être intéressant.
Vous alternez entre personnages récurrents et personnages d'un roman. Comment décidez-vous qu'on les reverra ou qu'on ne les reverra pas?
Bah, des personnages récurrents, les nouveaux, je vais en avoir que deux, c'est Paul et Alice. Et puis, en fait, c'est en fonction de l'histoire qui va se présenter. Je sais déjà que le prochain, donc celui où ils vont se retrouver tous les deux, ce livre-là est déjà écrit. Hein, il est en... Là, je suis en train de le corriger. D'ailleurs, il est devant moi, je suis en train de travailler dessus. Mais le prochain, celui que j'attaque en janvier, lui, ça sera un hors-série. Il n'y aura ni Paul ni Alice dedans. Et parce que j'aime bien de temps en temps revenir au hors-série. Je pense que c'est quelque chose qui me permet de me resituer un petit peu au centre du domaine d'écriture, qui me permet de revenir à ce que j'aime aussi, c'est-à-dire partir sur des personnages complètement inconnus, partir d'une page blanche véritablement. Moi, j'ai jamais eu le problème de la page blanche, donc ça me posera pas de soucis cette nouvelle fois. Et j'ai déjà l'histoire de base, en fait. J'ai déjà le nœud dramatique de cette histoire-là. Et j'ai hâte de y mettre, vraiment, j'ai hâte. Le truc, c'est que j'ai deux autres projets en cours aussi et il faut que j'arrive à trouver du temps pour ça. Alors, même si on est retraité, hein, vous connaissez l'histoire, c'est les retraités qui ont le moins de temps, mais même si je suis retraité aujourd'hui de la joaillerie, j'ai pas assez d'heures dans ma journée pour tout faire. Donc, j'ai une pièce de théâtre que je voudrais reprendre et finir parce que j'ai quelqu'un en vue pour pouvoir la faire jouer. Et j'ai un livre jeunesse aussi que j'ai commencé l'année dernière et que j'ai pas eu le temps de terminer encore parce que je mets toujours le roman en numéro un. Hein, c'est le roman qui commande. Moi, je veux que mon roman il soit fini tous les ans à telle date. Et donc, du coup, si le reste passe, si j'arrive à le rentrer dedans dans mon créneau, c'est très bien. Si j'y arrive pas, bah, c'est le roman qui passe devant. Donc,
Votre dernier roman en date, Invisible, est paru le 25 septembre 2025 aux éditions Fleuve Noir. Pouvez-vous, sans trop en dévoiler, nous en raconter l'intrigue?
le roman d'avant, le seul coupable, on apprend très très tard dans l'histoire qui est le tueur en fait. On le sait vraiment dans les tout derniers mots du bouquin. Là, je voulais le contraire. Je voulais qu'on sache tout de suite qui est le criminel. Je voulais qu'on sache tout de suite comment il s'y prenait et de quelle façon il restait invisible finalement par rapport à tous les gens qu'il recherchait. Je me suis dit, j'ai jamais travaillé de tueur en série jusqu'à présent. C'est mon 18e roman Invisible. J'avais jamais travaillé le thème du tueur en série et je me suis dit, si j'en fais un, si je pars sur cette idée-là, je veux faire le type le plus flippant que j'ai jamais lu, quoi. Je voulais vraiment avoir un focus de noirceur sur ce gars-là. Et je me suis dit, j'ai recherché comment je pouvais construire un personnage aussi noir que ça, sans être moi-même un tueur en série, puisque il fallait que je trouve des sources qui soient crédibles et qui soient extrêmement effrayantes. Et du coup, j'ai eu l'idée d'aller chercher dans ce qu'ont commis les véritables tueurs en série dans un certain nombre de pays, leur modus operandi, leur façon de travailler, entre guillemets. C'est ça qui a guidé mon chemin pour construire Loulou. Loulou, qui est un routier, j'ai été obligé de lui trouver un nom parce que comme il était au cœur même de l'histoire et qu'il y a un chapitre, c'est Loulou, un chapitre sur Alice, qui va évidemment être la gendarme qui va mener l'enquête pour le découvrir qui commet tous ces crimes. Je voulais que Loulou ait au moins une identité, même si elle est factice, pour éviter de faire il tout le temps. Donc, il me fallait un nom. Et j'ai trouvé que l'idée d'avoir sur son camion, qu'il ait cette espèce de fanion où il y a marqué Loulou et qu'il cache tout de suite parce qu'il veut pas que ça se répercute sur tous les gens qui le connaissent. Il veut lui aussi, il veut masquer cette identité-là parce qu'il est quand même connu sous ce nom-là. Mais ça me permettait de donner un nom à ce gars-là sans qu'on ait sa véritable identité. J'en ai fait un père de famille, j'en ai fait quelqu'un, on rentre dans son intimité, en fait, dans le bouquin. Et c'est ça aussi, je pense, qui était dérangeant avec ce personnage-là, c'est que, bah, les tueurs en série, en général, on les voit aux aguets, près des maisons, ou des jardins, ou dans les rues, où ils guettent leur proie. Là, on est carrément chez lui, où il a ses enfants, où il protège sa fille. C'est un personnage assez perturbant, je trouvais, à travailler. Je le trouvais par la même intéressant.
L'un des personnages principaux d'Invisible est Alice Pernelle, que celles et ceux qui vous suivent connaissent bien depuis 2023, puisqu'on la retrouvait déjà dans Ce qu'il faut de haine. À l'époque, elle était étudiante.
Oui.
Pourquoi avoir décidé de la faire rentrer dans la gendarmerie nationale?
C'était prévu dès le départ. Hein. Quand j'ai pris Ce qu'il faut de haine, je savais déjà que ce qui allait se produire dans ce livre-là allait complètement bouleverser sa vie et l'amener à faire une carrière d'enquêtrice suite au drame qu'elle vit dans ce premier roman. J'ai choisi la gendarmerie parce que d'un autre côté, Paul Kessler, lui, est un ancien flic en retraite, et donc j'ai vraiment tendu l'élastique entre les deux complètement en biais, entre la police d'un côté et la gendarmerie de l'autre, un retraité d'un côté, un jeune enquêteur de l'autre. Là, j'avais vraiment un panel complet entre les deux armes, en fait, finalement, qui sont très proches aujourd'hui. Il n'y a plus les rivalités qu'il y avait dans le temps, mais c'est deux entités différentes, et deux façons de penser différentes, et puis c'est deux façons de s'organiser différentes. Et puis je voulais qu'Alice soit motarde, parce que je voulais en faire entrer la moto dans mes romans par celui-là.
Avec Alice Pernelle, gendarme, vous aviez besoin de personnages officiels pour enquêter.
Oui, j'avais besoin, je voulais qu'elle soit rigide. Je voulais qu'elle ait un côté rigide, un côté dur, mais un côté discipliné. Ce que n'a pas Paul, finalement. Paul, de son côté, lui, il est plus du tout dans le carcan policier classique. Il a plus de compte à rendre à personne, mais en revanche, il a plus la possibilité d'enquêter au niveau des recherches ADN, de la téléphonie. Il a plus de relations privilégiées avec les magistrats, avec les avocats, avec les dossiers. Et donc, lui, il est complètement en dehors du circuit. La seule façon qu'il a, il vient à travailler sur une enquête, la seule façon qu'il a d'obtenir ces renseignements, c'est de connaître quelqu'un qui pourra les lui fournir. Et pour ça, je trouvais intéressant de lui juxtaposer un personnage qui, justement, est complètement dans les clous et qui va avoir des problèmes si elle fournit ses renseignements. Je trouvais que c'était intéressant de mettre côte à côte ces deux personnages-là qui n'ont vraiment pas grand-chose en commun, à part leur capacité. Ouais.
La moto, on la retrouve dans Invisible, votre dernier roman. Vous la vouliez sportive et puissante. Elle joue un rôle important.
Oui, elle joue un rôle important et je la voulais sportive et puissante parce que c'est complètement l'opposé des motos sur lesquelles je roule, moi. Moi, je roule sur une Harley et donc, bon, c'est une moto qui est puissante, hein, mais moi, je déteste la vitesse. J'ai jamais aimé ça, en fait, et moi, je roule assez pépère en moto. Cette jeune femme, en fait, je voulais qu'elle soit un petit peu le contraire de ce qu'on voit. De ce qu'on imagine en fait comme étant un motard masculin, je voulais qu'elle ait ce côté justement pas spécialement fragile, mais qu'elle ait ce côté beaucoup plus délicat en fait qu'un certain nombre de motards masculins. Et j'ai eu l'idée de la faire circuler au départ sur une grosse moto qui n'était pas forcément dans son gabarit. Et dans le suivant, elle récupère effectivement une moto plus light qui va beaucoup plus lui correspondre. Je voulais vraiment que la moto et elle ne finissent par faire plus qu'un.
En début de roman, vous précisez, je cite, tous les tueurs en série mentionnés dans le thriller sont réels. J'ai néanmoins changé leur nom afin que seuls leurs actes restent gravés dans votre mémoire. Loulou le routier existe ou a existé réellement?
Alors là, sans spoiler, ça va être difficile de répondre. C'est très difficile. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un roman précédent, ça doit être mon sixième ou septième roman, qui s'appelait Ne prononcez jamais leur nom. C'est un policier de l'antiterrorisme qui vient faire une explication aux policiers qui ont découvert sur les voies ferrées des morceaux de cadavres suite à une explosion dans le train d'un terroriste. Les flics commencent à percuter et ils se disent, bah tiens, c'est comme à Toulouse. Et au moment où ils vont prononcer le nom du tueur de Toulouse, le policier de l'antiterrorisme dit stop. Ne prononcez jamais leur nom parce qu'ils vont rentrer dans votre cerveau et vous ne pourrez plus jamais les en faire sortir. Ça va être des vers mentaux qui vont vous détruire. Il faut se souvenir du nom des victimes, il faut se souvenir des actes qu'ils ont commis, mais il faut oublier le nom de ces tueurs qui, de toute façon, ne servent à rien. Ils représentent une cause entre guillemets et on doit oublier leur nom, on doit se souvenir de ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que je maintiens dans ce livre-là. C'est l'écho en fait du précédent, de ne prononcer jamais leur nom. C'est pour ça que j'ai pas voulu donner les noms des véritables tueurs. Il y a des séries sur Netflix où on voit en gros le nom des tueurs en série. Je trouve que c'est dommage, c'est quelque chose qui me gêne toujours. Donc Loulou est comment dire, une construction hein, avec plusieurs tueurs en série, mais je tairai leur nom toujours.
Pourquoi avoir choisi comme serial killer un routier? Vous aviez une image pas forcément positive de cette profession.
Pas du tout, pas du tout. Quand mon frère était plus jeune, qui préparait la médecine, il écoutait Max Meynier le soir, donc c'était plutôt, ils étaient sympas à cette époque-là, en tout cas dans notre esprit. Non, c'est venu. Alors pourquoi un routier? C'est quand on me demande comment est venue cette histoire-là, c'est simple. J'étais en Espagne avec des amis à moto et on s'était arrêté dans un café sur le bord de la route et en face il y avait un parking très poussiéreux où les poids lourds s'arrêtaient les uns derrière les autres, à côté des autres. C'était vraiment un gros truc. Et il y a un gars qui s'est arrêté avec un énorme poids lourd et qui a ouvert sa portière et qui est descendu sur le marchepied et qui s'est arrêté. Et il n'est pas descendu plus loin. Il n'est pas remonté. Il avait toujours le pied sur le marchepied. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il descend pas? Pourquoi il vient pas boire? Il avait de la bière fraîche au bar. Il avait dû faire des heures de camion. Je supposais, moi, que la première chose qu'il avait envie de faire, c'était de descendre de son poids lourd et de venir se désaltérer. Et en fait, il le faisait pas. Je me suis dit, est-ce qu'il surveille le parking? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il le surveille? Est-ce qu'il cherche une proie? Est-ce qu'il regarde si on l'a suivi? Est-ce que tout est venu comme ça? En fait, le personnage de Loulou est arrivé de cette façon-là. Et j'ai aussitôt pensé au film Duel de Spielberg, où on voit la jambe en fait du conducteur à un moment qui tourne autour du camion, qui met des coups de pied dans les pneus pour voir si c'est gonflé. Et j'ai pensé à cette ambiance-là et c'est ce que ça m'a évoqué tout de suite. Et du coup, quand moi j'étais en Espagne, hein, donc le temps de rentrer à la maison dans Lyon avec mes amis, j'ai eu le temps de cogiter au personnage, j'ai eu le temps de commencer à construire cette histoire. Et en fait, quand j'ai commencé à l'écrire, j'en avais déjà un bon morceau. L'avantage en fait du routier, c'est que ce personnage-là, il est partout. Et ce que je dis souvent dédicace, c'est qu'il est un tueur sur la route, il est partout et nulle part à la fois. Il est complètement insaisissable et donc forcément invisible.
Comme à votre habitude, avec Invisible, vous avez écrit un roman au chapitre court, voire très court, hein, 127 avec l'épilogue. Vous écrivez comme vous êtes.
C'est-à-dire court.
Court, court, concis, précis. Même si ce soir, même si vous n'êtes pas court ce soir.
C'est long. Le chapitre court, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce qu'il permet de rebondir très vite d'un personnage à un autre sans rester dans le même chapitre. Et ça permet au lecteur de respirer aussi, mine de rien. C'est qu'il se dit, bon, allez, je lis encore 3 pages et puis je vais me coucher. Et puis finalement, bah, il se dit, bon, allez, encore 3 pages. Et puis, bon, allez, encore 3 pages. Et finalement, on lui fait manger plusieurs chapitres le soir alors qu'il avait prévu d'en lire qu'un. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est la vitalité que ça donne au récit. On n'a pas le temps finalement de noyer la situation avec un personnage avant d'arriver sur l'autre. Et c'est vraiment quelque chose qui me correspond beaucoup plus que les premiers romans que j'ai écrits où il y avait des chapitres de 20 pages, que d'ailleurs j'ai complètement réécrit et rechapitré, soit dit en passant. Je trouvais que le rythme était beaucoup trop lent comme ça. Je crois que de sinistre mémoire, à mon avis, la première version, il y avait 19 chapitres. Aujourd'hui, il y en a 90 et des poussières dans la nouvelle version. Parce que je pense que ça donne beaucoup plus de peps à l'histoire. Ouais.
Vous n'aimez pas vous ennuyer et donc vous n'aimez pas ennuyer les autres.
Un romancier qui ennuie ses lecteurs, bah, il en a de moins en moins, et puis très vite. Si j'écrivais un livre qui m'ennuie, je pense que j'arrêterais tout de suite. J'ai envie aussi de m'amuser, j'ai envie de, quand j'écris, il faut que l'histoire me séduise, il faut qu'elle me prenne, il faut qu'elle m'agrippe. Si j'écris une histoire où je m'ennuie, je me dis, le lecteur, s'il va refermer le bouquin avant d'être arrivé au bout, et c'est pas bon. Donc autant ne pas écrire du coup. Si on n'a qu'une histoire comme ça à proposer, c'est pas la peine de l'écrire. J'ai un ami, Alexis Lebsker, qui a dit exactement la même chose sur une table ronde il n'y a pas très longtemps. S'il n'a pas une histoire intéressante, il ne l'écrit pas. Moi, d'écrire des chapitres courts comme ça me permet d'avoir aussi cette tonalité qui me maintient bien en tension dans l'écriture, et c'est comme ça que j'aime travailler. Hein.
Vous avez souvent changé d'éditeur, dont certains vous ont laissé un goût amer dans la bouche, et vous êtes
Ouais.
maintenant bien installé chez Fleuve Noir. Cette stabilité a-t-elle un rapport avec cette notoriété depuis quelques années?
Fleuve est un éditeur qui n'a strictement rien à voir avec les précédents. C'est vraiment un éditeur qui croit dans ses auteurs. Bon, j'ai bien senti la différence, hein. J'ai eu quelques déboires, effectivement, entre guillemets, avec certains éditeurs. J'ai quand même rencontré des gens qui étaient très très bien. Par exemple, le Toucan, j'ai eu que des bons rapports avec le Toucan. J'ai quand même fait quelques bouquins chez eux. Mais par la suite, ben, j'ai voulu aussi évoluer. Et il se trouve que les éditeurs chez lesquels je me suis rendu, ben, ont mis la clé sous la porte. Certains de manière correcte, d'autres de manière crapuleuse. Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis, moi, j'ai failli arrêter d'écrire à une certaine époque, hein, à cause de ça. Et puis, Fleuve est arrivé au bon moment et ils m'ont donné ma chance, en fait. Et voilà, j'en suis vraiment très très heureux parce que c'est vraiment l'éditeur qui me convient quoi. C'est là où je me sens chez moi finalement. Je posais mes valises, comment dire, dans un monde qui me plaît, qui me séduit. L'équipe est au top, on travaille très bien les textes. Je suis très heureux chez Vlog et j'en changerai pas.
On parle de plus en plus de vous dans le monde du polar et vous avez même les honneurs de l'émission de l'influenceur incontournable Gérard Collard et de sa librairie. Vous n'êtes pas très loin des plus grands du genre. En tout cas, vous êtes désormais un incontournable. Comment gérez-vous cette notoriété? Vous vous sentez légitime?
Je pense que c'est la première question qu'on se pose quand on écrit un roman. Est-ce qu'on est légitime à écrire un roman? Et en fait, bah, on ne peut pas répondre nous-mêmes. C'est les lecteurs qui nous disent si on est légitime ou pas en achetant nos livres ou en les achetant pas, en nous faisant des retours en salon ou en faisant pas. Et c'est vrai qu'on voit sur le salon, il y a de plus en plus de lecteurs qui viennent me voir. Ça, c'est indiscutable depuis que je suis chez Fleuve. Je vends de plus en plus de livres, mais bon, je suis quand même très très loin de nos camarades, les premiers français. En tout cas, eux, ils nous tirent vers le haut. Les ventes du polar que eux font, comme Franck Tillier, comme Norel, comme Bernard Minier, comme Karine Gibel, comme Claire Favant, comme enfin, tous ces gens qui ont vraiment eu un parcours exceptionnel. Il y en a plein d'autres, hein, Nicolas Taquian, tout ça, Nicolas Lebel. Tous ces gens-là vendent énormément de livres et attirent l'attention sur nous qui sommes derrière, en fait, quand même, très très nombreux à être derrière. Et chacun à notre niveau, et en fait, on est tous dans une liste qui nous est propre quelque part. Et les lecteurs le savent et ils rebondissent d'année en année sur nos bouquins et c'est eux qui nous donnent la chance d'exister. C'est eux qui nous rendent légitimes ou pas. Donc voilà, c'est à eux de répondre à cette question.
Depuis quelques années, vous remportez régulièrement des prix dans les salons du polar. Vous avez toujours été à l'aise avec cette reconnaissance à travers le temps, 15 ans maintenant.
Un prix, ça surprend toujours, hein. On a beau en espérer, à chaque fois qu'on est sélectionné, ben, moi j'ai été sélectionné pas mal de fois, mais j'en ai quand même pas eu tant que ça, parce que ben, la concurrence est rude, hein. Mais en fait, c'est pas grave, parce que rien que le fait d'être sélectionné, ça montre qu'on a séduit déjà les sélectionneurs. Et puis quand on se retrouve en finale d'un prix, ben, on apprend qu'on ben, ah, c'est pas passé loin pour toi. Mais, oui, mais d'accord. Mais c'est bien, ça nous fait plaisir. Et on est content pour les prix des copains aussi. C'est quelque chose qui nous ravit, quelque chose qui nous conforte dans notre idée de continuer à écrire. Oui, on le vit très bien. Moi, je vis très bien le fait d'être sélectionné. De ne pas avoir de prix, c'est pas grave. Si c'est un copain qui l'a, en plus, on est toujours très content. Le prix, c'est quelque chose de très éphémère finalement. Les prix font pas forcément vendre beaucoup de livres en plus, à part quelques-uns. Bon, évidemment, le prix du Quai des Orfèvres, le prix Cognac, il y a des prix comme ça ou le prix du livre de poche, des choses ainsi là. Mais c'est pas forcément ça qui va vraiment vous faire vendre beaucoup plus de bouquins. Nous, ce qui nous fait du bien, c'est le retour des lecteurs sur les salons. Ça, c'est un prix qui n'a pas de prix.
Alors on parlait de salon, il y en a un qui vous touche plus particulièrement, c'est celui de l'escargot noir à Sens.
Ouais.
Vous apportez aux organisateurs votre carnet d'adresses et votre réseau, et il est bien rempli et très riche. Avec vous, les plus grands que sont Norek, Minier ou Tillier, mais pas que, ne peuvent pas vous dire non.
Si, ça leur arrive, hein. Il y a des moments où ils sont pas libres, où ils ont d'autres engagements, où ils ont parfois certains des tournages, parfois ils ont un roman en cours, où, mais bon, bien souvent ils disent oui, ou alors ils reviennent une année ou deux après, c'est bien, ça fait de la place pour tout le monde. Le salon de l'escargot noir, ça a été le premier salon polar dans l'Yonne, près de chez moi. Et l'intérêt de ce salon, notamment, c'est que non seulement on fait venir des superstars comme Franck, Olivier ou Bernard, des gens comme ça, mais aussi on fait venir des auteurs débutants ou des auteurs qui n'ont pas encore véritablement trouvé leur public. Et tous les gens qui viennent pour voir nos superstars viennent voir tout le monde. Pour le coup, ils font tout le tour du salon et ça permet aux auteurs plus débutants de se faire connaître auprès des lecteurs et c'est très bien comme ça. Et c'est cet équilibre qu'on a voulu trouver et qu'on va pérenniser. Et donc, on essaie aussi d'avoir une parité homme-femme sur le salon, c'est pas toujours évident. D'ailleurs, l'année dernière, je crois qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que ça prouve qu'elles ont dit oui aussi et qu'elles sont partantes pour ça. On a beaucoup de collègues autrices qui sont très, très, très bonnes romancières. Moi, je citerai par exemple Angelina Delcroix, Max Manoek, qui sont vraiment mes deux gros derniers coups de cœur dans le polar. Voilà, nous, on adore avoir nos camarades ici. Il y en a un certain nombre qui ont fondé d'ailleurs un collectif qui s'appelle Les Loups du Polar, qui sont quand même maintenant assez nombreux en France. Et elles défendent l'identité du roman féminin noir. Et on est nombreux, nous, les hommes aussi, à les soutenir. Donc, c'est pour ça que la parité chez nous, à l'Escargot Noir, est vraiment quelque chose qu'on essaie de conserver.
On peut parler d'une famille, celle du polar et du roman noir. Dans les salons, il n'y a pas que les lectrices et les lecteurs qui passent du bon temps. Les week-ends sont rarement tristes.
Oui, c'est rarement triste. De toute façon, le monde du polar, on est toute une troupe, hein. On est une grande famille d'auteurs, on n'est jamais tous tout le temps là, mais on est toujours une énorme bande de copains et c'est vrai que ça rigole bien. Bon, en plus, dans les régions où il y a du vin, c'est moins triste qu'ailleurs.
Alors, vous avez deux autres passions, une un peu liée à votre ancien métier, c'est de fabriquer des couteaux et des stylos, et l'autre, c'est la moto. Vous offrez des cadeaux aux lectrices et aux lecteurs, et vous vous transportez, quand vous pouvez, si le temps le permet, en deux roues pour repérer les lieux de vos enquêtes et vous rendre au salon qui vous invite. L'écriture est donc un bon moyen d'échange et d'évasion.
Exactement. Bah oui, la moto, par exemple, quand on parlait tout à l'heure de ces pages noires, quand je me rends aux pages noires, j'y vais systématiquement à moto. Donc, rien que pour aller là-bas, je traverse le Morvan, je mets 2 heures de plus que si je prenais l'autoroute, mais je me régale. C'est une région absolument magnifique et quand même pas très loin de chez moi. C'est toujours un vrai bonheur de passer par là. Quant au couteau et au stylo, c'est une activité de loisir, hein. Moi, je suis un hobbyiste, on va dire, puisque je vends rien, hein. Je fais juste des cadeaux. J'ai absolument aucun commerce avec ça. La seule façon qu'on puisse gagner un de mes couteaux, c'est sur les salons où j'en ai offert. L'année dernière, j'en ai offert quand même quelques-uns au salon. Le but, c'est de fournir au salon de quoi récupérer un peu d'argent, parce que moi, je le donne le couteau et après le salon organise une tombola, un concours, ils font ce qu'ils veulent pour gagner un peu d'argent et donc ça sert à l'accueil des auteurs. L'année prochaine, notamment, j'en fais un seul pour l'Escargot Noir. Et celui-ci servira certainement à payer un billet d'avion pour un des auteurs qui vient de très loin. J'aimerais que ça soit comme ça. On avait déjà évoqué le sujet l'année dernière avec les organisatrices, avec Magali Dubroc et Marie Le Breton. Et donc j'aimerais que ce couteau-là, le couteau de cette année, qui sera certainement mis à prix comme l'année dernière, avec des tickets de tombola à 10 euros, et normalement ça devrait pouvoir payer le billet d'avion de notre camarade québécois. Le but, c'est ça, de faire des cadeaux pour faire plaisir.
L'écriture est une passion dévorante. Il n'est en aucun cas question de métier à propos de votre rôle de romancier.
Non, parce que moi, mon métier, ça a toujours été la joaillerie, hein. L'écriture, c'est quelque chose qui est venu à côté et j'ai toujours considéré l'écriture comme un plaisir, mais jamais comme un métier. C'est pas du tout un métier pour moi. Je sais que j'ai un certain nombre de mes camarades qui, eux, travaillent, c'est leur boulot, quoi. Ils ont besoin de ça pour vivre. Moi, non. J'ai toujours gardé ce côté plaisir, loisir. Il n'y a aucune pression, en fait. Aucune pression du tout. Il n'y a pas de relation d'argent avec le livre en ce qui me concerne.
Vous exercez un métier d'art, art comme artisan, art comme artiste. On parle d'auteur, d'écrivain, de romancier pour celles et ceux qui écrivent des histoires, mais rarement d'artiste et encore moins d'artisan. Vous êtes plus un artisan des mots qu'un artiste des mots.
Moi, j'ai une relation assez compliquée avec le mot artiste. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament artistes de ceci, artistes de cela. Pour moi, l'artiste, c'est celui qui est reconnu par les autres comme tel. C'est-à-dire que personne n'a à se prévaloir de ça pour lui-même. Là, c'est vraiment aux gens de juger si ce qu'on fabrique, par exemple, dans les pièces de joaillerie, si la personne qui a fabriqué la pièce est un artiste ou pas, c'est vraiment le client qui juge, en fait, en fonction de l'objet qui est en face de lui, ou éventuellement le patron qui vous l'a fait faire. Mais artisan, non, j'étais pas artisan, j'étais ouvrier, j'étais salarié, donc j'étais pas artisan. Mais on va dire artisan du livre, peut-être, oui, puisque là, je suis le seul maître à bord.
Tout à l'heure, nous évoquions votre passion pour la fabrication d'objets d'art, que ce soit des bijoux, des stylos ou des couteaux. On a oublié votre passion, encore une, pour la musique. Où en est le projet de fabriquer votre propre guitare?
Alors ça, j'ai encore repoussé ça un peu plus loin parce que j'ai besoin d'outillage. Et pour l'instant, j'ai pas encore la place au sous-sol d'installer cet outillage-là. Mais sans cet outillage-là, je pense que ça va vraiment être compliqué. J'ai pas non plus envie d'y passer 3 ans et j'ai vraiment besoin d'un outil qui fonctionne bien. Et ça, je ne l'ai pas. Donc pour l'instant, j'ai repoussé. Mais ça m'empêche pas de m'acheter une guitare de temps en temps. Donc je me fais plaisir quand même.
On connaît la passion des auteurs et des auteureux de romans noirs et de polars pour la musique et le rock en particulier. Alors si la place de batteur est prise par Nicolas Lebel, celle de guitariste est libre ou est déjà prise, à part par vous, bien évidemment?
Non, non, elle est prise bah, déjà par Jean-Luc Bizien, qui joue très très bien de la guitare, Hergé Ellory en Angleterre, qui joue très très bien de la guitare aussi, et je suppose qu'il y en a encore d'autres qui jouent très bien. Moi, je suis pas musicien, hein. Je suis un amateur de guitare, je suis un amateur. Moi, j'ai aussi une batterie à la maison, une basse, un piano, tout ça, mais je suis toujours resté amateur, je me suis jamais considéré comme musicien en fait, donc je bidouille, on va dire.
Le monde du polar regorge donc de passionnés de musique et de rock, parfois durs, en particulier. Je pense à Cédric Cyr, à Nicolas Lebel et à plein d'autres. Quel lien y a-t-il entre le rock et le hard rock et le roman noir et le polar en particulier?
Il y a beaucoup de chansons de rock qui parlent de crime, hein. C'est vraiment au cœur même du truc, hein. Le crime, la drogue, la prostitution, enfin tout ce qui est le plus noir de ce que vivent les humains finalement. Donc on écoute les Rolling Stones, qu'on écoute Pink Floyd, qu'on écoute, enfin moi pour moi je parle de ceux de ma génération, hein, les Beatles, les Doors. Il y a beaucoup de désespoir finalement dans les chansons de rock américaines ou anglaises. J'ai été nourri au biberon avec ça, donc je pense que ça fait aussi partie de l'univers du thriller. Et de toute façon, ouais, j'écoute de la musique comme ça quand j'écris, enfin quand j'écrivais dans le train en tout cas, puisqu'aujourd'hui j'ai moins besoin d'avoir de la musique quand j'écris. Les thèmes sont les mêmes en fait entre le roman noir et le rock.
L'écriture est toujours une passion comme elle l'était au début de votre aventure de romancier.
Non, c'est encore plus fort aujourd'hui. C'est encore plus fort aujourd'hui parce que j'ai acquis des moyens d'écriture que j'avais pas au début. Et je sais que je joue sur des gammes différentes, des gammes peut-être plus compliquées, mais qui me fournissent encore plus d'harmonie finalement, d'harmonie noire. Et c'est ça que je cherche le plus à mettre en scène. Et donc plus j'ai de possibilités, plus j'ai d'expérience finalement, mieux ça vaut. Donc oui, je m'amuse encore plus aujourd'hui qu'avant.
On peut dire que vous êtes un auteur prolifique puisque vous avez déjà écrit 18 romans entre 2010 et 2025. Vous rattrapez le temps perdu.
Peut-être, je sais pas, c'est mon rythme, c'est un par an, donc bah 18 publiés, le 19e il est écrit aussi. En fait, je vais arriver au bout de 20 ans à 20 romans, on va dire grosso modo, donc c'est un par an, donc c'est pas si énorme que ça. C'est un rythme qui me convient bien, c'est un rythme qui convient aux lecteurs aussi, parce qu'ils savent qu'à telle période, tous les ans, bah, ils vont retomber sur le dernier roman de Bidule, ils vont arriver chez le libraire, ils vont le roman, ils savent qu'il sera, dans peu de temps, il sera disponible. Les gens aiment bien ça en général. Donc moi, ça me va, hein, même encore plus maintenant à la retraite, ça fait vraiment beaucoup de temps, donc sur quasiment de faire mon roman tous les ans pendant encore longtemps.
Vous prenez toujours le temps de lire avec toute la bande que vous fréquentez et les autrices et auteurs de votre carnet d'adresses et de votre réseau. Vous n'avez que l'embarras du choix, à moins que cela ne soit le choix de l'embarras.
Oui, parfois c'est compliqué. Ça m'est arrivé d'arrêter des livres en cours de route parce que je me rendais compte qu'ils étaient proches de celui que j'allais écrire ou que j'étais en train d'écrire. Ça, c'est un problème qui m'est arrivé plusieurs fois. Et puis, bah, j'ai pas envie d'être influencé en fait. Hein, donc, si j'ai mon idée, si j'ai mon histoire dans la tête, j'ai pas envie que des éléments qui ont été travaillés par d'autres personnes que je connais en plus viennent interférer avec mon bouquin. Donc, à ce moment-là, j'arrête de lire. Mais c'est vrai qu'en période d'écriture, je lis quand même beaucoup moins qu'avant. Mais je garde des moments où je peux lire en été principalement. En général, je finis mon bouquin vers juillet-août, début-août. En général, c'est fini. Et je rattaque le suivant en janvier. Donc, j'ai déjà une idée du thème. Je laisse un petit peu tourner dans ma tête. Et du coup, j'ai entre septembre, octobre, novembre, j'ai un peu de temps pour lire.
Tout à l'heure, nous évoquions les séances de dédicace. Il est l'heure de passer à la rubrique quatrième de couverture.
Je ne vous connais pas, je vous frôle, là sur le quai, épaule contre épaule, sur les quatrièmes de couverture, nous cherchons la même aventure, sur les quatrièmes de couverture.
Quatrième de couverture, ce sont nos coups de cœur, les propositions de la quinzaine et les dates des prochaines séances dédicaces. Jacques, quel est votre dernier coup de cœur littéraire?
Mon dernier coup de cœur littéraire, c'était Angelina Delcroix avec Les mémoires d'un expert psychiatre que j'ai adoré. J'ai lu depuis un autre livre d'une autre femme. Je l'ai arrêté en plein milieu. J'adore aussi ce livre-là. Mais en fait, j'étais obligé de l'arrêter pour la raison que je viens de citer, c'est-à-dire que je trouvais que l'intrigue se rapprochait beaucoup de celle que j'ai en tête, moi, pour mon prochain. Alors, je sais pas du tout comment la personne me gère après. Je l'ai arrêté en cours de route. Je finirai de le lire certainement l'année prochaine au mois d'août ou au mois de... Je reprendrai complètement d'ailleurs, parce que d'ici là, j'aurai oublié des scènes. Mais ça sera aussi un gros coup de cœur de lecteur, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai adoré le début de l'histoire, je trouve ça absolument exceptionnel. Donc je ne donnerai pas le titre là aujourd'hui, mais c'est une autre femme aussi, et qui il n'y a pas très longtemps qu'elle est dans le roman noir. et dans le thriller, et j'ai trouvé ça exceptionnel.
Côté proposition de la quinzaine, notons le roman d'Anel Jonah, Danse avec tes chaînes aux éditions Fayard, le polar de Mark Woltenhauer, Fatal Abîme aux éditions Istia et compagnie, le roman de Juliette Rousseau, Pecnode aux éditions Cambourakis, les thrillers de Jean-Christophe Granger, Sans Soleil, Disco Inferno et Sans Soleil, Le Roi des Ombres aux éditions Albin Michel, le roman de Momalo, La Bretz Brigade aux éditions Point, le thriller de Sonia Delzongle, Apnée aux éditions Fleuve Noir, le roman de Dimitri Kantchelov, Tout le monde garde son calme aux éditions Finitude, le livre du collectif composé de Blandine Barlet, Louise-Marie Barnier, Elena Maskova, Arnaud Mias, Jean-Marie Pilon et Lucas Tranchant, La condition intérimaire aux éditions La Dispute, le roman de Nathalie Zadj, La patiente du jeudi aux éditions de l'Antilope, le livre de Lev S. Vygotsky, Pensée et langage aux éditions La Dispute, le roman de Séverine Chevalier, Théorie de la disparition aux éditions La Manufacture du Livre, le thriller de Salvatore Minni, Emprise aux éditions Presse de la Cité, le roman d'Incoli Jean Boffan, Nation cannibale aux éditions De Noël, le polar de Christelle Duchamp, L'île des souvenirs aux éditions Point, les romans de Graham Greene, Le ministère de la peur et Deux hommes en un aux éditions Flammarion, le livre de Guillaume Meurice, Dans l'oreille du cyclone aux éditions Point, le roman de Jean-Paul Dubois, Si ce livre pouvait me rapprocher de toi aux éditions Point, le thriller de Jurica Pasevich, Mater Dolorosa aux éditions Point, et le polar de Lionel Destremo, Jusqu'à la corde aux éditions Point. Pour terminer l'émission, les dates de rencontres et de séances dédicaces, Jacques, avez-vous des rencontres, séances ou dédicaces dans la région proche à annoncer?
Je ne suis pas avec du polar cette année, sinon je n'ai pas de date particulière dans ce secteur-là.
Roman de Gare, c'est terminé pour aujourd'hui. Jacques Sausset, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio B et de Roman de Gare.
Merci Michel.
Rappelons que votre dernier roman, Invisible, est paru aux éditions Fleuve Noir le 25 septembre 2025. On peut se procurer dans toutes les bonnes librairies sans oublier vos autres romans, et ils sont nombreux.
Invisible, c'était le 18e, hein, donc effectivement, il y a du choix. Si Invisible vous séduit, n'hésitez pas, vous en trouverez beaucoup d'autres chez votre libraire.
On peut suivre votre actualité sur internet via votre site www.jacques-saucet.fr, ce qui est rare de nos jours, hein, sans oublier les inévitables réseaux sociaux.
Oui, c'est sur les réseaux sociaux, parce que mon site internet, je l'ai un petit peu laissé en plan aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas remis à jour. Il va falloir que je le fasse avec le dernier, il va falloir que je m'en occupe, je pense pendant les fêtes de Noël, je vais le remettre à jour.
Le prochain invité de Roman de Gare le jeudi 15 janvier 2026 sera l'auteur indinois Jean-François Dupont. Il présentera son nouveau roman De rares nuages, paru le 2 septembre 2025 aux éditions Asphalt. Jacques, bonne chance pour la suite de vos aventures de romancier.
Merci beaucoup Michel, merci.
Bonne séance dédicace et puis à bientôt sur Radio B.
À bientôt, merci.
J'ai un bien étrange pouvoir, mais n'est-ce pas une malédiction? Cela a commencé un soir, j'avais à peine l'âge de raison. J'étais plongé dans un roman de la bibliothèque rose, quand j'ai vu qu'il y avait des gens avec moi dans la chambre close.